Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien ce matin. Vous n'avez pas le choix d'aller bien avec un beau soleil comme ça, là. Hein? C'est vrai? Vous êtes contents? Honnêtement, là, je vais confesser là, que la dernière fois qu'il y a eu de la neige, honnêtement, là, j'étais vraiment désespéré. Là. J'étais découragé. Alors, j'étais dû, là. Il y avait un homme qui coupait les arbres. Il travaillait fort à couper les arbres. À peu près 4 à 5 arbres par jour. Il faisait ça avec une hache. Ça, c'était dans le bon vieux temps ou le mauvais temps, ou je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça travaillait pas mal fort. Puis, il coupait à peu près 4 à 5 arbres par jour. Puis là, il n'arrêtait pas d'entendre les gens parler qu'aujourd'hui, on était rendu dans un ère moderne et tout ça, puis il avait tout inventé, toutes sortes d'outils. Alors, il dit, bien, écoute, je vais aller voir au magasin, voir s'il n'y a pas quelque chose que je pourrais prendre, qui pourrait m'aider à couper peut-être un peu plus d'arbres. Alors, il va dans un magasin, puis effectivement, le vendeur lui montre une tronçonneuse, une chainsaw en bon latin. Et là, le gars, le vendeur, il monte ça, puis il dit, regarde, et tu te dis, si toi, tu es capable de couper 4 à 5 arbres par jour avec ta hache, moi, je te garantis, tu vas être capable de couper 50 arbres avec le même effort. Il dit, 50 arbres? Ah, il dit, c'est super, j'achète tout de suite. Alors, il s'en va chez eux. Le lendemain, il revient au magasin, en courant, fâché, en colère, il prend la tronçonneuse, la lance sur le comptoir, et lui dit, t'es un menteur! T'es un menteur, tu me dis que je serais capable de couper 50 arbres par jour. J'ai même pas été capable de faire un arbre avec ta machine. Il dit, un arbre? C'est un peu, là. Alors là, le vendeur prend la tronçonneuse, la chainsaw dans les airs, il prend la scie dans les airs, puis là, il prend la corde qu'il y a ici, puis là, il tire. Là, le moteur part. Alors le gars le regarde et il dit, c'est quoi ce son-là? Le gars ne savait pas toute la puissance qu'il avait entre les mains. Maintenant, là, nous, on peut être là, puis on dit, franchement, on peut commencer à rire un peu de lui, puis dit, mais ça n'a pas de bon sens, ça. Mais honnêtement, là, si on veut être humble et honnête, nous, les enfants de Dieu, on agit souvent comme ça. On ne réalise pas toute la puissance qu'on a en la présence du Saint-Esprit. On ne réalise pas comme enfant de Dieu, comme chrétien, ce que nous avons entre les mains, ce que l'Esprit Saint peut faire et sa présence avec nous. De fait, le Saint-Esprit est tellement important qu'alors que l'apôtre Paul va juste avant d'amorcer un des enseignements les plus profonds et sublimes sur les relations de couple et le mariage, avant même qu'il s'élance pour parler de l'éducation des enfants et nos relations de travail, il va s'arrêter, fait une pause et il dit, en passant, soyez remplis du Saint-Esprit. Pourquoi vous pensez? Qu'est-ce que ça laisse entendre? Mes chers amis, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la vie chrétienne est impossible. Elle est impossible sans l'aide du Saint-Esprit. En revanche, et c'est très encourageant, c'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit, mon ami, ça roule. Et c'est ça le message que Paul veut nous laisser ici dans sa lettre, lorsqu'il écrit sa lettre, une courte lettre, pas une grosse lettre, mais c'est absolument vital que vous et moi, nous puissions être remplis du Saint-Esprit. D'ailleurs, Paul va donner un commandement. Paul n'est pas en train de dire, j'aimerais bien si vous pouviez être remplis d'Esprit. Ah, travaillez fort et j'espère que vous allez y arriver, que vous serez capable, vous serez en mesure d'être remplis du Saint-Esprit. Non, 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 il donne un commandement. Et c'est un commandement très fort parce que dans l'original, c'est un présent parfait, progressif, qui veut dire que tu dois constamment, continuellement être rempli du Saint-Esprit pour mener ta vie chrétienne. Et ça va avoir un impact dans tous les domaines de ta vie, même ton mariage, ton éducation avec les enfants, puis tes relations de travail. C'est vital. Maintenant, quand on pense à ce commandement-là où Paul dit « Soyez remplis du Saint-Esprit », il y a trois questions tout de suite qui surgissent dans notre tête. Premièrement, ben c'est quoi ça? C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Deuxièmement, comment je sais si je suis rempli de l'Esprit? Et troisièmement, comment être rempli de l'Esprit? Et on va voir ces trois questions-là justement dans le passage que nous allons regarder ce matin dans cette courte lettre de Paul. Mais juste avant, si vous voulez bien, on va se courber un instant et demander la bénédiction de Dieu. Eh bien, Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette occasion que nous avons ce matin à regarder les Écritures saintes, ta révélation et ce que ta parole nous révèle sur la personne et le rôle et l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies. On te prie, Seigneur, que tu puisses ouvrir les yeux de notre cœur afin qu'on puisse bien comprendre l'ampleur de tes paroles. Et merci, Seigneur, pour ton esprit. On veut te remercier pour l'œuvre de l'esprit et la présence de l'esprit dans nos vies. Ça nous donne l'occasion, Seigneur, de pouvoir avancer, progresser, nous améliorer, devenir de mieux en mieux, et le tout pour ton honneur. Enseigne-nous ce matin, au nom de Jésus. Amen. Venez me rejoindre, si vous voulez bien, dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5. On va commencer la lecture au verset 15. Alors, voici ce que dit la parole de Dieu. Éphésiens 5, 15. Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des gens sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis d'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Maintenant, comme je vous ai dit, ce commandement est un commandement qui est progressif, c'est-à-dire qu'on doit continuellement être rempli de l'Esprit. Ce n'est pas une fois pour toutes, c'est qu'il faut continuellement chercher à être rempli de l'Esprit. D'ailleurs, Alfred Cuen, dans sa traduction de la parole vivante, a vraiment été chercher cette nuance-là de l'original lorsqu'il a traduit ce qui suit, le même passage. Voici ce qu'il dit. Il dit « Buvez à long trait à la coupe de l'Esprit, laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit et cherchez en lui votre plénitude. » Mais c'est quoi être rempli de l'Esprit? Maintenant, ce qui est très étrange, ce passage-là, parce qu'à un moment donné, Paul est en train de parler, en plein milieu comme ça, en plein milieu de sa belle lettre profonde, la lettre aux Éphésiens, et tout d'un coup, il commence à parler de boisson, parle de l'alcool. Ah oui, voici ce qu'il dit. Il dit, ne soyez pas enivrés de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Alors, en plein, comme, juste comme ça, à brûle pour point, il parle de l'alcool. Dans d'autres mots, soyez pas remplis d'un 40 onces de scotch, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Et soyons honnêtes, c'est bizarre. Et d'ailleurs, les commentateurs le disent bien, c'est assez étrange. Mais il doit y avoir une raison pour ça. C'est qu'il doit y avoir une certaine ressemblance entre les deux. Tout en étant différent à quelque part, puisqu'il y a un avertissement. Donc, il y a certains éléments qui se ressemblent entre être saoul et rempli de l'esprit, tout en étant différent à quelque part aussi, parce qu'il y a un avertissement. Donc, posons-nous la question, en quoi être saoul et être rempli de l'esprit est pareil, et en quoi c'est différent? On va commencer avec la première question, en quoi c'est pareil. Maintenant, on va se rappeler le livre des Actes. Vous vous rappelez, on avait regardé ça, la fête de la Pentecôte, où là, les disciples, 120 disciples sont réunis, et là, tout d'un coup, le Saint-Esprit descend sur chacun d'eux. Et là, mon ami, il se passe un miracle, les gars se lèvent, ont beaucoup d'assurance, puis du courant, puis commencent à parler des merveilles de Dieu. Les mêmes gars qui couraient, puis qui avaient peur, qui avaient de la crainte, qui étaient hésitants, inhibés, tout d'un coup se lèvent, puis ont du courage, sont courageux, mon ami, sont prêtres, puis prêchent la parole de Dieu. La réaction est bizarre, la foule est étonnée, alors regardez bien la réaction de la foule. Laissez-moi vous la lire, acte 2, 11. La foule dit, « Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? » Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils disaient les uns aux autres, regardez bien ce qu'ils ont dit, « Que veut dire ceci? » Mais d'autres se moquaient, puis disaient, ils sont pactés. Trop de réactions, ils sont saouls. En quoi, comment ça se fait qu'on va tirer cette conclusion-là, voyant l'attitude de ses disciples, et dire, ils sont saouls. Les seules fois que tu voyais des gens comme ça, avec autant de courage et d'assurance, c'était quoi? C'est n'importe. Les gars ont l'assurance, de la joie, puis tout ça, puis c'est des parties de mariage, des enfants, et tout ça. C'est des parties. Donc, les gens ont automatiquement, ils disent, écoute, c'est pas normal d'être courageux à avoir cette assurance-là. Ils sont même pas gênés. Comment ça se fait? La seule affaire qui pourrait te rendre avec autant de courage, puis d'assurance, puis de la joyeuse, ça doit être en état de boisson, ces gars-là. Voyez-vous ce qui se passe? Ces gens-là étaient courageux, braves et joyeux. Parce que l'alcool enlève nos inhibitions, la retenue, la gêne, la discrétion, ça enlève des peurs, tes appréhensions, tes craintes tombent. Mon ami, tu vois quelqu'un, là, un homme là, qui ne parle jamais à sa femme, là, il ne dit jamais à sa femme qu'il l'aime, tout d'un coup, il rentre de la boisson, il boit, puis d'un coup, il dit « Ah, je t'aime, chérie! Ah, je t'aime, je ne l'ai jamais dit, mais je t'aime! » Oh, c'est correct, calme-toi, chérie, calme-toi. Là. Avez-vous remarqué quelqu'un qui est en boisson, on dirait qu'il est moins gêné. D'ailleurs, même des fois, tu espérais qu'il soit plus gêné, qu'il ait plus de gêne, tu sais. Les gars ont plus de courage, ont plus d'assurance. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire de la publicité à la télévision. Ils ont dit, faites attention quand vous avez des parties de bureau à Noël. Hein. Prenez pas plus de 2 verres de vin, parce qu'ils savent si tu en prends trop. Tu as commencé à vraiment dire ce que tu penses de ton boss. Puis t'es fait lundi matin. Ça te donne une assurance et un courage que tu n'as pas quand tu prends pas de boisson. C'est vrai. C'est un des phénomènes. Maintenant, la boisson a un paquet d'autres aspects aussi, malheureusement. Ça rend certains violents. Ça te contrôle. Hein. Ça te rend violent, d'autres, ça ils dorment tout le temps. Prendre de la boisson, boum, tombe. Mais il y a 2 aspects ici que l'apôtre Paul veut faire ressortir, et c'est ces 2 choses-là, le courage et la joie. C'est les 2 éléments qu'on va retrouver chez une personne qui est sous, puis une personne qui est remplie d'esprit. Le courage et la joie. 2 choses. Maintenant, il y a quelque chose qui se passe aussi. Cela dit, être ivre et être rempli de l'esprit sont également très différents. Paul sait intuitivement, et divinement, évidemment, le Seigneur lui a montré, mais il sait intuitivement que c'est différent. Nous, on le sait à cause de la science, à cause de la recherche. On sait maintenant que l'alcool te rend brave et heureux parce que c'est un dépresseur. Il va ralentir la fonction de ton cerveau, si bien qu'il diminue ta vision de la réalité. En d'autres mots, tu vois moins la réalité, dans le fond. Tu ne vois pas vraiment le danger devant toi. Ça baisse un peu. Donc, toi, tu as plus de courage, plus d'assurance. Il ralentit l'activité du système nerveux central. Ça a un effet sédatif. Il réduit tes peurs, tes inhibitions. Ça va faire baisser, ça fait chuter, ça. L'alcool nous rend braves et heureux en déprimant notre cerveau, affectant notre perception de la réalité. Influencé par l'alcool, en fait, on voit moins la réalité. L'alcool nous fait perdre du discernement. En revanche, la plénitude du Saint-Esprit fait tout le contraire. C'est tout à fait à l'opposé. Ça va à l'autre bout du spectre, complètement différent. Ça te fait voir encore plus la réalité. C'est ça que fait la plénitude du Saint-Esprit. Ça nous emmène à l'opposé. Ça va affecter notre perception de la réalité. On va avoir une meilleure vision que si on n'était pas rempli d'esprit. Et d'ailleurs, regardez les paroles de Paul, regardez ce que ça entend. Et c'est ce qu'il dit dans Éphésiens 5, 15. Il dit, « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection. » Regardez comment c'est réfléchi. La personne là, doit être alerte, elle est appelée à être alerte, à avoir de la sagesse, du discernement. Il dit, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. » Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Paul donne 3 exhortations ici. Il est en train de dire, premièrement, je veux que vous soyez sages. Deuxièmement, je veux que vous soyez pleinement attentifs. Et troisièmement, je veux que tu comprennes. La compréhension, la sagesse, être très alerte, être pleinement attentif, c'est ce qui se passe. En d'autres mots, Paul cherche à rehausser notre activité mentale. Pas à la baisser, pas à l'affecter en la diminuant, mais en la rehaussant. Paul cherche à rehausser notre activité mentale, ce qui est complètement différent de l'influence de l'alcool. Alors, comment rehausser ton activité mentale? Paul le répond en étant rempli de l'esprit. Contrairement à l'alcool, la plénitude de l'esprit nous rend plus braves et plus heureux. Non en affaiblissant notre perception de la réalité, mais au contraire, en la rehaussant. On ne peut pas avoir meilleur exemple que l'histoire du prophète d'Élisée. Élisée est avec son serviteur, ils sont dans la maison, à Dothan, dans une ville, ils sont là, puis là, ils sont couchés. Là, toute l'armée syrienne s'en vient. Là, on parle de centaines de soldats. Ils s'en viennent et ils encerclent toute la maison de Élisée, le grand prophète, avec son serviteur. Ils sont tous là, là. Ils s'encerclent. Ils veulent attraper Élisée. Le premier à se réveiller, c'est le serviteur. Le serviteur se lève, prépare un bon cappuccino, c'est bien beau. Prépare ses toasts, ses céréales, tout ça, c'est vraiment bien. Là, d'un coup, ça donne. Il faisait beau et beau soleil, Méditerranée. Alors, le serviteur sort, ouvre la porte, il ouvre dehors. Il voit les centaines de soldats qui sont là, qui entourent la maison. Et là, il part à courir, il va chercher Élisée. Élisée, 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 réveille-toi, regarde. Regarde ce qui se passe à l'extérieur. Regarde des centaines de soldats. On est fait, on est mort. Élisée le regarde et dit, voyons, calme-toi. Calme-toi, relax. Belle journée, là. Relax. Non, non, tu comprends pas, tu comprends pas. Regarde, on est perdu, on est fait. Élisée fait ceci. Il fait une prière, bien simple. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ouvre-lui les yeux. Et là, tout d'un coup, on a la réponse. Tout d'un coup, Dieu ouvre les yeux du serviteur d'Élisée. Et qu'est-ce qu'il voit? Nous lisons ça dans 2 Rois 16-17. L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Complètement différent. En d'autres mots, le Seigneur lui a fait voir, lui a donné une perception beaucoup plus en haute, plus réelle. Voici la réalité spirituelle que tu ne voyais pas. Vous voyez, il est emmené là. Il a une perception de la réalité. Ça, c'est l'effet. Regarde. Dieu lui a ouvert les yeux. Le serviteur a vu les anges de Dieu, il a vu le monde spirituel, plus puissant que toute l'armée qu'il y avait là, et le serviteur a réalisé que Dieu est au contrôle, il a un plan, et Dieu est puissant. Quelqu'un a dit, avec Dieu, tu as toujours la majorité. Amen? Toujours. Et là, vous voulez connaître la fin de l'histoire. Là, le roi syrien, puis les soldats commencent à descendre. Là, il commence à s'encercler. Puis là, le serviteur, il va être là. Là, il dit, ouais, OK, c'est toujours qu'il avance. Il dit, regarde, il fait une autre prière. Il dit, Seigneur, aveugle-les tous. Et toute l'armée syrienne devient aveugle. Devenez aveugle, vous ne voyez absolument plus rien. Mais t'as beau avoir une épée, là, mais si t'es aveugle, là, ça ne te bat pas fort. Là. Alors là, les gars sont venus, puis ça, hey, on cherche Élisée, on cherche Élisée. Vous ne voyez absolument rien. Ah, il est parti par là-bas. Oui, OK. Hey, est-ce que le serviteur était content? Lui, il était content, là. L'armée entière est aveugle. Voilà ce qui se passe quand tu as la plénitude du Saint-Esprit. Vois-tu, la plénitude de l'Esprit nous donne de la joie et du courage, non pas en affectant et réduisant nos facultés, mais en la rehaussant. Il nous révèle encore plus la réalité. Il nous fait voir le monde spirituel qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on ne voit pas à l'œil naturel. Il nous révèle Dieu, nous fait voir ce que Dieu a fait, nous montre ses plans. C'est ça qu'il fait. D'ailleurs, c'est ce que Jésus avait dit lorsqu'il parlait du Saint-Esprit qui devait venir, le Consolateur qui devait venir dans Jean 4 jusqu'à Jean 16, Jean 14 jusqu'à Jean 16. Qu'est-ce qu'il dit? Lorsque l'Esprit viendra, il me glorifiera, il parlera de moi, il va vous montrer ce que j'ai dit, il va reprendre les paroles que j'ai dites, il va vous les redire. C'est ce qu'il dit dans Jean 14, 26, il dit, « Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Le rôle de l'Esprit est de prendre tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ, tout ce que Jésus a fait pour vous, tout ce que vous êtes en Jésus-Christ et vous le révéler. C'est ça son rôle. Son rôle est de te révéler les vérités spirituelles et les rendre si réelles dans ton cœur, dans ton esprit, qu'elles deviennent la puissance qui affecte et gouverne ta vie. Le Saint-Esprit injecte les vérités spirituelles dans ta vie afin qu'elles te dominent et qu'elles t'influencent. La plénitude de l'Esprit n'est pas comme de l'alcool. Elle ne mousse pas une joie artificielle pour te faire oublier tes problèmes. C'est comme C.S. Lewis l'a très bien dit, devenu un classique, et il dit, « Je ne me suis pas tourné vers le christianisme pour qu'elle me rende heureux. » Pour ça, dit-il, j'ai toujours su qu'une bonne bouteille de Porto ferait l'affaire. Il dit, « Si vous cherchez une religion pour vous sentir vraiment à l'aise, je ne vous recommande surtout pas le christianisme. La plénitude de l'esprit ne produit pas une joie superficielle, artificielle, qui nous fait oublier nos problèmes, mais nous donne une compréhension si intense, si profonde de Dieu, de sa vérité, ce qu'il fait dans le monde, que nous avons plus de courage à faire face à nos problèmes. Amen. La plénitude de l'esprit injecte en nous une connaissance surnaturelle qui produit en nous une joie et du courage. La plénitude de l'esprit nous rend conscients de la présence de Dieu, de son salut, au point de contrôler notre vie afin que rien d'autre ne le fasse, ni le danger, ni la crainte, ni le souci, l'angoisse, rien d'autre. Contrôlé par le Saint-Esprit. Voilà la plénitude du Saint-Esprit. Et comment savoir si je suis rempli d'esprit? Bien, quelles sont les marques d'une personne qui est remplie d'esprit? Au début, Paul, dans ce passage, Paul nous dit d'agir avec sagesse, de nous conduire avec sagesse. Et si vous voulez vous conduire avec sagesse, il dit, soyez remplis d'esprit. Les versets 15 à 18 nous montrent les résultats, le produit, le fruit d'être rempli du Saint-Esprit. D'un côté, nous avons un réalisme plus intense. On parle de sagesse, d'être alerte, d'être attentif. Alors, d'un côté, nous avons un réalisme plus intense et cette vision plus intense de la réalité spirituelle nous rend plus humbles. Évidemment, parce qu'on voit que c'est plus grand que nous. Et à la fois, en même temps, elle rehausse notre joie. Et on voit l'exemple ici. Juste avec la sagesse. C'est quoi la sagesse? Au plus simple, on peut dire que la sagesse, c'est être terre à terre. C'est être réaliste, contrairement à idéaliste et crédule. Une personne sage est consciente, elle est réaliste et alerte. Et la sagesse de Dieu ne nous élève pas, au contraire. On ne se sent pas meilleur puis dire « je suis bien meilleur que les autres ». Non, elle va nous humilier. Et c'est la raison pour laquelle, dans le même passage, tu vas parler, va rehausser tes capacités mentales, mais en même temps, va nous dire, juste à la fin du passage, « soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ ». Donc, ça produit en nous plus de courage, plus d'assurance, mais en même temps, d'humilité, plus d'humilité. Parce que l'humilité, ça signifie, la soumission, ça signifie s'humilier devant les autres. C'est regarder les autres avec respect, les honorer par révérence pour Christ. Être rempli d'esprit, c'est associé à la joie. Mais on voit aussi que la joie spirituelle s'accompagne d'un réalisme qui nous rend humbles. Et l'apôtre Paul fait ressortir ces deux extrêmes, ces deux aspects. Lorsqu'il dira dans 2 Corinthiens 16, 10, il dit « comme attristés, nous sommes toujours joyeux ». C'est les deux extrêmes. Comme pauvres, et nous en enrichissant plusieurs. Comme n'ayant rien, nous possédons toute chose. En d'autres mots, nous sommes tristes, mais on n'est pas malheureux. La plénitude de l'esprit nous procure de la joie grâce à Dieu, en vertu de la connaissance que nous avons de Dieu et de son salut. Si nous pouvons être remplis de joie, ce n'est pas parce qu'on porte nos regards sur nous, mais on les porte sur Dieu. Et quelqu'un l'exprime ainsi, la joie de l'esprit, c'est comme les étoiles. Les étoiles apparaissent de plus en plus brillantes à mesure qu'il fait sombre. Il peut faire sombre autour de toi. Et plus qu'il fait sombre, plus que tu as la grâce de Dieu, tu vois son œuvre et les étoiles paraissent de plus en plus brillantes. Le passage, dans l'original, le passage n'est qu'une longue phrase. Alors, ce que l'on voit, en fait, est le résultat d'être rempli d'esprit dans les versets qui vont suivre. Verset 19 dit « Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu, le Père, pour toutes choses. » Imaginez, rendre grâce à Dieu pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus. Une personne remplie d'esprit peut toujours rendre grâce au Seigneur pour toutes choses, parce que c'est au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, on voit comment connaître une joie profonde et puissante. Voilà comment on peut voir les étoiles de plus en plus claires, alors que le crépuscule se fait encore s'assombrir et devient de plus en plus sombre. C'est que la joie de l'esprit est surnaturelle. Jean 16, Jésus a déjà parlé d'une joie parfaite, surnaturelle. D'ailleurs, on le voit même dans la vie d'Habacuc, alors qu'Habacuc voit l'ennemi s'approcher et ce sera difficile pour le pays, tout sera ravagé. Et il va pouvoir néanmoins, en plein milieu de cette rude épreuve et des temps difficiles qu'il va connaître, il peut dire à la fin de sa lettre, courte lettre, trois chapitres, il va pouvoir dire, « En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple, car le figuier ne fleurira pas. » En d'autres mots, même s'il n'y a plus de nourriture dans mon pays, Il dit, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera parce que l'ennemi va arriver, va tout ravager, va tout détruire, toutes les récoltes. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront de pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans l'étable. Toutefois, il dit, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Une personne remplie de l'esprit est remplie d'une joie profonde en dépit des circonstances. Elle peut toujours remercier le Seigneur. Et comment c'est possible? Comment éprouver la joie en dépit des temps difficiles et que tout est sombre? La fin se trouve à la fin. La réponse se trouve à la fin du passage. C'est au nom de Jésus. Éphésiens 5, 20, nous lisons, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Dans la Bible, les noms avaient une signification. Ça reflétait le caractère. Aujourd'hui, les noms, pas aussi profonds, c'est juste une question de goût aujourd'hui, de préférence. Mais à l'époque, dans l'Antiquité, les noms avaient toute une signification. Ça reflétait des aspects du caractère. Et lorsque le Saint-Esprit te remplit, son rôle est glorifier Jésus, c'est d'élever Jésus dans ton cœur. C'est son rôle, Jésus le dit, il me glorifiera, il va m'élever dans votre cœur. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et le rôle du Saint-Esprit, c'est de te montrer les enseignements de Jésus, ce qu'il a fait, son œuvre, tout ce qu'il a accompli sur la croix pour toi. Et l'Esprit-Saint est en train tranquillement de t'emmener de plus en plus conscient de Jésus. Il te fait connaître de plus en plus son nom, c'est-à-dire son caractère et ce qu'il a fait pour toi. Et à mesure que les années passent et que l'Esprit-Saint te révèle de plus en plus la beauté de la croix, le drame de la croix changé en bénédiction pour le monde entier. À mesure que l'Esprit te révèle avec les années, à mesure que tu étudies les Écritures et que tu découvres Dieu, l'Esprit-Saint fait ça en toi, elle révèle, elle te dévoile, elle te fait comprendre et apprécier de plus en plus le génie de la croix, le génie du calvaire, lorsque Jésus s'est offert à la croix, et comment Dieu a pris le plus grand drame de l'humanité et l'a transformé en la plus grande bénédiction de l'humanité. Qu'est-ce que ça fait, ça, chez nous? Ça fait une explosion de joie dans ton cœur, parce que tu sais que Dieu peut prendre les plus grands drames de ta vie et les changer en bénédiction, les transformer. C'est ce qu'il produit quand on est rempli de l'Esprit. L'Esprit glorifie Jésus dans nos cœurs, produisant en nous des actions de grâce pour toutes choses, car on sait que Dieu a tourné la malédiction de la croix en bénédiction pour chacun d'entre nous. Et on pourra chanter des louanges, comme le dit le verset 19. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Voici le portrait d'une personne qui est consciente de la présence de Dieu. Il prend plaisir en Dieu au point de vouloir chanter, au point de vouloir exprimer cette joie qui est parfaite dans ton cœur, cette joie profonde. Comment tu veux l'extérioriser, tu veux l'exprimer, et le chant devient, la louange devient le meilleur moyen d'exprimer cette joie dans ton cœur. Alors la personne remplie d'esprit est transportée de joie. As-tu cette joie? Est-ce que c'est ton expérience? Est-ce que tu connais cette expérience-là? Est-ce que les étoiles brillent de plus en plus à mesure que la vie se fait sombre autour de toi? Si c'est l'expérience d'être rempli d'esprit, on se trouve dans l'une des deux catégories. Un, vous dites, Normand, j'ai aucune espèce d'idée de quoi tu es en train de parler. Je ne connais pas cette expérience-là. Ou deux, je ne connais pas cette expérience-là comme j'aimerais la connaître. Alors, comment être rempli d'esprit? Premièrement, regardons Jésus. On peut regarder Jésus. Savez-vous que Jésus a été rempli du Saint-Esprit? Vraiment un passage fascinant dans Luc 10. Nous lisons, en ce moment même, Jésus, écoutez bien ceci, tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Savez-vous que Jésus, lui aussi, a été transporté de joie et était excité? On n'imagine pas Jésus comme ça. Hein? On imagine Jésus parfois se promener, hein, puis avec son 2x4, puis aussitôt qu'on faisait une erreur, que les disciples faisaient une erreur, tapait dessus. Non, savez-vous que Jésus lui-même a été transporté de joie, un mot qu'on va retrouver 11 fois dans le Nouveau Testament, et c'est le mot le plus fort que tu pourrais imaginer. C'est comme une exultation, une excitation, une joie, d'ailleurs la même joie qu'on va retrouver dans l'Apocalypse 19, aux noces de l'agneau, et c'est cette joie-là que tu vas connaître, aux joies de l'agneau. Une joie, c'est pas juste « je suis joyeux ». Non, c'est comme un game de hockey, les Canadiens qui viennent de scorer, là. Tu vois-tu les gens qui se lèvent, qui crient, puis ils sont tous, là, tu sais, ils ont mal à la gorge quand ils sortent de là parce qu'ils ont tellement crié. C'est ce genre de joie-là que Jésus a eu. l'exultation, l'exaltation, il a été transporté de joie. Alors, pose-toi la question, pourquoi? Comment ça se fait qu'il a été rempli d'esprit puis transporté de joie? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux savoir ce qui s'est passé là. Vrai? Parce que moi, je veux avoir cette joie-là. Amen, es-tu avec moi, là? Hein? Lundi matin, quand c'est temps de te lever, là, à 6 heures pour aller travailler, tu vas avoir cette joie-là, là. Facile d'avoir la joie cet après-midi, là, dans ta cour assis, avec ton cappuccino dans le gros soleil. Moi, je veux l'avoir demain matin à 6 heures, là. Qu'est-ce qui a transporté, Jésus a transporté de joie, tressailli de joie par le Saint-Esprit. Et voici ce qu'il dit. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Jésus a eu une explosion de joie. Pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé? Maintenant, disons ceci, si on est pour connaître Dieu, ça prend une révélation de Dieu. On ne peut pas connaître Dieu par nos efforts humains. C'est Dieu qui se révèle. Et il se révèle à qui? Il ne se révèle pas à ceux qui se pensent tellement intelligents qu'ils n'ont pas besoin de Dieu. Il ne se révèle pas à ceux qui se disent, « Moi, je n'ai vraiment pas besoin de ça, c'est une béquille pour les faibles. » Non, non, il se révèle à qui? Jésus dit, il se révèle aux enfants. Et c'est une métaphore, c'est une phrase spirituelle qui veut simplement dire aux humbles. Ceux qui savent qu'ils sont en faillite devant Dieu, qu'ils ne sont pas capables de plaire à Dieu par leur propre force, qu'ils ont besoin de Dieu, qui font une prière et disent, « Seigneur, moi j'ai vraiment besoin de toi. Moi, je suis perdu. Par mes propres forces, je suis perdu. Je ne suis pas capable, j'ai besoin de toi. » Dieu se révèle à ces gens-là. Ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui se voient en échec, en faillite de bonnes œuvres devant Dieu, ils se révèlent à eux. Alors, que signifie la louange de Jésus? « Je te loue, Père, lorsque tu as caché ces choses aux sages, mais tu les as révélés aux enfants. » Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Qu'est-ce que ça signifie, ça? Sa louange se résume à ceci. « Je te loue, Père, de ce que tu es un Dieu de grâce. » C'est ça que ça veut dire. Jésus a regardé l'Évangile. Il a regardé la grâce. « Je te loue, Père, de ce que tu sauves par grâce et non par les œuvres. » Jésus voit la grâce de Dieu, il voit l'Évangile. Et là, il est rempli de joie. C'est une joie, c'est de l'allégresse. Maintenant, si Jésus est parfait, puis sa vie est pas mal en règle avec Dieu, hein, comment ça se fait que lui a besoin du Saint-Esprit? Si lui a besoin du Saint-Esprit pour faire face aux défis de sa vie, combien à plus forte raison nous autres avons-nous besoin du Saint-Esprit, d'être remplis d'esprit, qui sommes faibles? Amen. Hey, Jésus avait le poids du monde entier sur ses épaules. Et comment il a été capable de l'encaisser? C'est parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. C'est avec l'aide de l'Esprit. Et comment il a été rempli de l'Esprit? En regardant la grâce. Il a regardé l'Évangile. Il dit, tu regardes et tu vois la grâce. Et Jésus dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel, de ce que tu m'as sauvé par la grâce. C'est ce que nous, on peut dire. Mais Jésus était émerveillé devant la grâce, devant l'Évangile, devant la beauté de la grâce de Dieu. Et il a commencé en louange. Son cœur débordait tellement de joie qu'il a commencé à louer le Seigneur. Et chacun d'entre nous, si nous regardons et nous voyons la grâce au point que notre cœur va se remplir de joie, nous allons commencer nous aussi à louer le Seigneur et dire, « Oh, mon ami, je te loue, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui a agi avec grâce envers moi. » As-tu perdu le zèle pour Dieu? Es-tu plein de colère? Quelqu'un t'a fait du mal, t'es plein de colère, t'as été blessé, t'es encore plein de colère. Et même tu regardes d'autres personnes, peut-être même parfois avec mépris, c'est que tu as oublié la grâce. Tu ne regardes plus la grâce. Tu as oublié la grâce. Parce que la grâce fait fondre le cœur le plus dur comme de la cire au soleil. Avez-vous peur que Dieu vous abandonne, vous laisse tomber? Tu as oublié la grâce. Dieu ne nous abandonne jamais. Regardez ce qu'il a fait à la croix pour toi et pour moi. Regardez la grâce. Regardez jusqu'à ce qu'il y ait une explosion dans ton cœur. Tu regardes la grâce. Arrête-toi, regarde l'Évangile. Ce que Dieu a fait à la croix pour toi, là, et tu vas voir ton cœur va commencer à se remplir. Tu veux être rempli du Saint-Esprit? Un, tu as besoin d'être rempli de Jésus. C'est évident, si tu n'es jamais venu à Jésus-Christ, tu as besoin. Ça commence là, ça commence avec une conversion à venir à Jésus-Christ pour avoir son salut. Ou tu ouvres ton cœur et tu dis à Jésus, moi, Jésus, j'ai besoin de toi. Moi, j'ai mené ma vie jusqu'à aujourd'hui comme je voulais. Mais ça ne m'emmènera pas au ciel, ça c'est certain, Seigneur. Et ce que tu as fait à la croix, tu as tu m'as tout procuré ce que j'ai besoin pour aller au ciel et avoir une relation avec Dieu et le pardon de mes péchés, là à la croix. Et Seigneur, je crois, je mets ma foi en toi pour mon salut. Ça prend Jésus. Premièrement, être rempli de Jésus. Premièrement. Deuxièmement, il faut que tu sois rempli de la parole de Dieu. C'est vraiment intéressant. Parce que nous voyons ici dans ce passage d'être rempli d'esprit, puis ça donne les résultats d'être rempli d'esprit. On a exactement la même chose dans Colossiens, mais on voit les quatre résultats d'être rempli de la parole de Dieu. Même chose. Être rempli du Saint-Esprit, être rempli de la parole de Dieu produit les mêmes choses, les mêmes résultats. Être rempli de la parole de Dieu. Et c'est à mesure que je suis rempli de la parole de Dieu, où le Saint-Esprit va embraser mon cœur, va remplir mon cœur d'une joie indescriptible, une joie parfaite, parce que je vais connaître Dieu de plus en plus. Et je vais pouvoir chanter des psaumes, des cantiques et tout ça. Mon cœur va être plein. En d'autres mots, être rempli d'esprit produit les mêmes résultats qu'être rempli de la parole. Troisièmement, tu as besoin de te repentir de tes péchés, de ne pas laisser le péché dans ta vie. D'ailleurs, nous lisons dans la même lettre, Éphésiens 4, ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Là, ça parle d'une liste de péchés qu'on peut faire qui attriste le Saint-Esprit. Le péché attriste l'esprit. On ne peut pas perdre l'esprit, mais on peut l'éteindre, dit un Thessalonicien aussi. Tu ne veux pas éteindre le Saint-Esprit, tu veux qu'il soit puissant dans ta vie, qu'il soit actif dans ta vie. Quatrièmement, tu as besoin de prier, évidemment. Tu as besoin de te retrouver avec d'autres enfants de Dieu. Te joindre à un groupe maison. Joins-toi à un groupe maison. Si tu ne vas pas dans un groupe maison, donne ton nom au kiosque. Ne pars pas d'ici sans t'inscrire dans un groupe maison. Fais juste donner ton nom. Dis, je suis intéressé à aller dans un groupe maison. Je veux aller prier, étudier avec les frères et sœurs. Je veux voir les Écritures. Je veux être encouragé par des frères. Je veux encourager d'autres aussi. Joins-toi à un groupe maison. Alors, tu regardes, tu étudies les Écritures. Tu observes ce que Jésus a fait. Tu regardes son ministère, son œuvre, et de façon systématique, et tu vois ce qu'il a accompli pour toi, et là, ton cœur va se remplir. D'ailleurs, on va faire un exercice. D'accord? J'inviterai les musiciens à s'approcher en avant ce matin. On va faire un exercice. On va le faire, ça. Imaginez, vous arrivez de travail, vous arrivez à la maison, vous avez eu une grosse journée. Grosse journée d'ouvrage. Et là, vous êtes vraiment découragé parce que votre patron vous a fait sentir comme si, franchement, il n'y a pas vraiment besoin de toi. Puis même, tu n'es pas content, tu peux t'en aller. Et là, tu rentres à la maison, puis tu te sens pas apprécié à l'ouvrage. Tu n'as pas été traité là, avec respect. Prends tout. Et là, tu es vraiment découragé. Tu es sur le bord dans sa serviette. Tu ne sais plus quoi faire. Tu as besoin d'argent, donc il faut que tu gardes ton emploi. Mais en même temps, tu vas au travail. Tu n'as pas aucune motivation pour aller travailler. Êtes-vous là ce matin? Moi, j'en connais qui sont là. Et tu rentres à la maison, là. D'accord? Et là, tu prends ta Bible. Tu te sens comme rien. Tu prends ta Bible et tu prends la lettre aux Éphésiens. Une courte lettre, juste la lettre aux Éphésiens, là. 6 chapitres. D'accord? Et Mark Driscoll a fait un beau travail ici dans un livre qu'il a intitulé. Il a fait un commentaire sur la lettre aux Éphésiens. Très, très simple, pas trop technique, et tout ça, qu'il a intitulé « Pour qui te prends-tu? » Alors, « Who do you think you are? » C'est vraiment là, comme un sommaire de ce que nous sommes et ce que nous avons en Jésus-Christ. Voilà ce que tu es en Jésus-Christ. C'est ton identité. Voilà ce que tu es. Alors, tu es découragé. Tu te sens pas bon. Ton boss veut rien savoir de toi. Et tu commences à lire la lettre aux Éphésiens. Et tu découvres que toi qui es en Jésus-Christ, qui as pris une décision pour donner ta vie à Christ, à Jésus-Christ, tu découvres, tu apprends en lisant juste la lettre aux Éphésiens. Tu apprends. Hey! Moi qui suis en Jésus-Christ, je suis appelé un saint. Je suis saint, Éphésiens 1, versets 1 et 2. Je suis béni, Éphésiens 1, 3, 14. Je suis apprécié, Éphésiens 1, 15 à 23. Je suis sauvé. Éphésiens 2, versets 1 à 10. Je suis réconcilié. Éphésiens 2, 11 à 22. Tu continues ta lecture, tu découvres, hey, je suis entendu. Je suis entendu. Éphésiens 3, 14 à 21. Éphésiens 4, 1 à 16. Je suis doué. Dieu m'a doué. Je suis doué. Je suis nouveau, créé selon Dieu. Éphésiens 4, 17 à 24. Je suis pardonné. Éphésiens 4, 25 à 32. Je suis adopté. Éphésiens 5, 1 à 21. Je suis aimé. Oui, quelqu'un m'aime. Quelqu'un m'aime. Dieu m'aime. Je suis aimé. Éphésiens 5, 22 à 33. Je suis récompensé. Éphésiens 6, 1 à 9. Et tu continues ta lecture, tu arrives au Éphésiens 6, 10 à 24, et tu découvres. Je suis victorieux. Est-ce que ça ne t'inspire pas, ça, de tourner vers Dieu et dire, « Ah, je te loue, Seigneur, parce que tu es un Dieu de grâce et tu as agi avec tellement de grâce à mon égard. » Et là, ton cœur se remplit d'une joie indescriptible, une joie parfaite qui ne dépend pas des circonstances. Et tout d'un coup, les étoiles commencent à s'illuminer de plus en plus, malgré quel ouvrage c'est sombre et difficile. Voyez-vous, bien-aimés, c'est quoi être rempli d'esprit? Voyez-vous comment c'est important pour chacun d'entre nous d'être rempli d'esprit? Alors ensemble, remplissons-nous de cet esprit. Car nous aurons une joie indescriptible, une joie parfaite. Nous aurons une vie victorieuse. Amen. Chantons ce cantique ensemble.